RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Karine Oriot de Canal 2 International, une chaîne privée camerounaise, et Fatima Tawan Sanya de France 24. Au lendemain de l'élection présidentielle américaine, ce numéro sera consacré au bilan de la politique africaine de Barack Obama et à la future politique africaine du président élu Donald Trump. Il y a un an, personne ne croyait à l'avenir politique de Donald Trump. Dans les capitales occidentales, son élection suscite à la fois enthousiasme et désarroi. 78% de Français ne sont pas satisfaits de l'élection de Trump comme président des États-Unis et 83% ont une mauvaise image de lui. Pour la première fois, des manifestations ont lieu au lendemain d'une élection présidentielle. En Afrique, pour l'heure, seul le président du Burundi s'est félicité du résultat de cette élection. Comment la victoire de Donald Trump, Hassan Diop, a-t-elle été accueillie sur le continent?
Vous l'avez dit, la première réaction est la plus rapide en Afrique subsaharienne, en tout cas, en dehors de Al-Sisi en Égypte. Ça a été Pierre Nkurunziza, tout simplement parce que dans son projet de politique étrangère, il l'a clairement dit, Donald Trump, nous allons sans doute y revenir, Donald Trump ne veut plus que les États-Unis soient le gendarme du monde. Autrement dit, on se préoccupera moins du respect des droits de l'homme, des grands principes démocratiques que, par exemple, sous Barack Obama, et qu'aujourd'hui, surtout en Afrique centrale, où l'on voit des dirigeants qui ont la tentation de se maintenir au pouvoir, de tripatouiller les constitutions, parce que c'est le cas au Burundi, de briguer et d'avoir un troisième mandat présidentiel. Et je pense que Pierre Nkurunziza, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ne va sans doute pas se gêner de changer la constitution et puis finalement de s'éterniser au pouvoir. Du côté du Congo-Kinshasa, c'est pareil. La réaction a été... C'est voulu un peu plus subtil. On a vu Lambert Mende, qui est la voix de son maître, la voix zélée du président Joseph Kabila, dire que bon, il a été élu, c'est une affaire américaine, nous n'avons pas à faire d'ingérence, ce qui veut dire, à bon entendeur, salut, ne vous mêlez pas de ce qui se passe chez nous. Voilà. Donc, je crois que il y a un mot qui revient souvent depuis cette victoire de Donald Trump, c'est le mot « inquiétude ». Inquiétude, donc, de manière indirecte, évidemment, sur l'avenir politique de certains pays africains.
Fatima Tawan Sanya, de bonnes raisons de s'inquiéter avec cette victoire de Trump en Afrique?
C'est sûr, parce que on va vers une période d'incertitude totale. Déjà, lui-même est un personnage incertain, flou. Ses déclarations sont pour le moins la plupart du temps hasardeuses. Prenons des thèmes aussi simples que quid des engagements dans les traités internationaux? Va-t-il tenir les engagements? On sait que depuis hier, il a éliminé de façon assez subtile, mais les gens l'ont remarqué vraisemblablement de son site internet, la proposition concernant la COP21. Il avait dit qu'il allait se retirer. Ça n'est plus sur son site internet. Et la déportation des musulmans, parce qu'il avait appelé à la déportation des musulmans de façon globale, et l'interdiction d'entrer sur le territoire des musulmans, ce qui est constitutionnellement indéfendable de toute façon.
Karine Oriot, une réaction à la suite de cette élection de Donald Trump?
Alors moi, je ne partage pas du tout l'inquiétude en fait des Africains sur l'élection de Donald Trump, parce que je pense que c'est un fantasme qui est plutôt une peur, une inquiétude qui est très européenne. Je pense que les Africains n'ont pas du tout à s'inquiéter. Barack Obama, son prédécesseur, a adopté, était dans la continuité de Bush et de Clinton, et je pense que Trump va effectivement faire la même chose, sauvegarder les intérêts d'abord américains. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Hassan Diop.
Lorsque je parle d'inquiétude, c'est que on ne peut pas nier le rôle des grandes puissances. Barack Obama a été élu, c'est vrai qu'on reviendra sur son bilan à propos de l'Afrique. Il a surtout fait des discours sur l'Afrique en disant que ce sont aux Africains de se prendre en main, que ce rôle prééminent finalement des grandes démocraties, qu'on le veuille ou pas, même si Donald Trump a été élu aux États-Unis, c'est peut-être justement un des avatars de la démocratie. Il n'empêche que les États-Unis incarnent non seulement l'idée de puissance mondiale, mais c'est aussi la principale démocratie donc de ce monde, et que par conséquent, à partir de là, les États-Unis peuvent impulser effectivement les démocraties ailleurs.
Alors, du fait de ses origines kényanes, l'élection en 2008 de Barack Obama avait suscité beaucoup d'espoir sur le continent, un continent sur lequel il s'est rendu à 4 reprises, notamment en Égypte, l'Égypte, au Ghana, au Sénégal, puis récemment au Kenya. Au lendemain du 20 janvier, lorsqu'il passera la main à Donald Trump, que retiendra-t-on de la politique africaine d'Obama à Saint-Diop?
Alors, il y a deux phénomènes. C'est d'abord, il y a le sentiment de fierté, et je crois qu'il est encore largement partagé sur le continent. On a une vision vraiment de fierté. Le premier noir afro-américain président des États-Unis. C'est vrai qu'il a ouvert aussi ses privilèges douaniers qui avaient été lancés sous Bush. Il l'a amplifié. Mais c'est vrai qu'il est difficile de faire un bilan tout à fait satisfaisant, je dirais. Je dirais que le bilan concret d'Obama est moins satisfaisant que le bilan de Bush.
Ah ben oui, ça c'est...
Bilan mitigé, Fatima Tawansanya, vous le partagez aussi?
C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il y a de l'ordre de la déception amoureuse. Avec, il est arrivé, on aurait dit le Messie. Les Africains ont cru que c'était un Africain qui était élu aux États-Unis, donc ça va être leur porte-parole là-bas. Il restera évidemment un modèle. Un symbole énorme, notamment pour les jeunes et la jeunesse africaine, notamment à travers ce projet Yali, où justement il envoie un millier de jeunes africains entrepreneurs se former pendant 6 semaines, 12 en tout, parce que 6 semaines dans une université et 6 semaines dans une entreprise, et beaucoup de jeunes leaders africains d'aujourd'hui s'en sont servis. Mais c'est surtout un bilan économique, c'est « doing business ». In Africa. Ça a été la porte ouverte pour les entreprises américaines, l'occasion pour elles de venir s'implanter de façon durable sur le continent. Donc en gros, le bilan économique est très faible. Il restera un énorme symbole, effectivement, que les Africains pourront garder avec eux, mais ça restera une déception amoureuse, moi je pense.
Mais il y a également sur le plan économique, on pourra ajouter Karine Orio, le Millennium Challenge qui avait été lancé par Bush et que Obama a poursuivi.
Oui, moi je pense que, alors moi je serais moins dure justement avec Barack Obama. Effectivement, c'est une fierté, c'est un symbole. Maintenant, il a quand même lancé des projets innovants. Et effectivement, en donnant la parole, la place à ces leaders, à ces jeunes leaders africains, c'est pas mal du tout. Alors, je pense quand même qu'il y a eu une augmentation de 70% de l'aide au développement accordée par les États-Unis au continent africain. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il a plutôt lancé des projets qui sont innovants et sa diplomatie économique est satisfaisante à mon sens.
Sur le plan politique, à Saint Diop, on n'oubliera pas le discours d'Accra, au cours duquel Obama déclarait « L'Afrique a plus besoin d'institutions fortes que d'hommes forts », un discours qui avait, on s'en doute, pas été apprécié par les dirigeants.
Mais c'est le langage de vérité. Obama est quelqu'un de très brillant. Et en même temps, ce qui fait son talent aussi, c'est qu'il a une façon d'exprimer les choses avec simplicité et en même temps de manière percutante. Il a un discours qui revêt une dimension universelle. C'est-à-dire que tout le monde peut entendre, on peut être américain, chinois, africain, il s'adresse à tout le monde et avec un certain bon sens qui a caractérisé de grands dirigeants américains tels que Lincoln. Et sur le plan politique, on peut aussi ajouter effectivement, toujours dans le cadre de ces liens entre les États-Unis et le business, sans doute sous l'impulsion aussi de la Chine et de la globalisation de l'économie, c'est qu'il a institué des rencontres avec les dirigeants africains.
Oui, il y a eu sommet africain.
Voilà, il y a eu deux séquences. Il y a eu la séquence à Washington et puis la séquence à Addis Abeba. Voilà. Est-ce que Donald Trump va pérenniser ce type de rencontre? J'en doute très fortement.
Alors Fatimata Wansanya, sur le plan militaire, on connaît le discours antiterroriste des États-Unis qui a envisagé d'ailleurs d'installer une base à Dakar, le seul pays francophone que Barack Obama a visité.
A visité, oui, absolument, et qui a laissé... sorte d'immense fierté, faut le dire comme c'est, pour le peuple sénégalais, notamment la jeunesse, on en parlait. L'implication des armées américaines sur le continent, c'est la séquence la plus importante, on va dire, et sans doute ça va être poursuivi par Trump, faut pas exagérer. Ils ont développé tout le programme des drones, notamment, qui est l'implication des drones américains sur le continent, ça va être le plus important après l'Afghanistan. Donc c'est vraiment,
et
on sait,
au Niger,
donc c'est très important pour eux. Donc effectivement, cette voie-là va être poursuivie, forcément. Le bilan militaire est très important. Il y a la lutte contre le terrorisme. Alors évidemment, on sait que Boko Haram, les Chebab, et puis tout le Nord Mali, on en passe, les meilleurs, et Daesh et la Libye. Alors ça, voilà, le chemin ne sera que grand. Et forcément, la nouvelle équipe de Bush, de Trump, va être forcément dans la lignée, dans la droite ligne de ça, parce que évidemment, renforcer la puissance militaire des États-Unis sur le continent va être une grande priorité pour eux, c'est sûr.
Vous partagez cette analyse?
Alors, je partage l'analyse de Fatimata, effectivement. Après, maintenant, je pense qu'il faut redéfinir les enjeux. Là, on a vu que Trump faisait plutôt un appel du pied à la Russie. Bon, est-ce que ça va être décisif? Comment est-ce qu'il va se repositionner sur le continent? Je pense que Barack Obama déjà avait opéré une rupture. Parce que même si effectivement les efforts qui ont été faits, notamment à Agadez au Niger, sont des efforts considérables sur le continent, je pense qu'ils avaient déjà adopté la stratégie du leadership en retrait. C'est-à-dire qu'effectivement, ils projetaient plutôt des formations. D'ailleurs, il y a des équipes d'Africains qui sont formés justement dans les unités américaines. Donc, ils ont une autre stratégie qu'ils ont mis en place. Je ne suis pas sûre que Trump arrive avec un intérêt particulier, en tout cas, de sécurité sur le continent africain. Qu'est-ce que ça représentera? Point d'interrogation.
Ça sera peut-être pas forcément, il va pas raisonner en termes de sécurité pour les Africains, mais en termes de sécurité nationale pour les États-Unis. Et il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les stratèges, les militaires, les spécialistes de sciences politiques et de géopolitique le répètent à tue-tête. La menace terroriste est une menace globale. Lorsque le terrorisme prospère en Afrique, c'est une menace pour les intérêts américains. Lorsqu'il s'agit par exemple de champs pétrolifères, de pays producteurs de matières premières, de difficultés d'accès à certains produits de première nécessité pour les industries et même pour les investissements, tout simplement. Donc, je pense qu'effectivement, si Trump a une vision binaire, finalement, parce qu'on peut résumer sa politique, en tout cas, ce que l'on en sait, à une vision binaire, c'est-à-dire d'abord les États-Unis, et à l'intérieur des États-Unis, sa clientèle blanche menacée peut-être par la globalisation, qui a peur des minorités qui grandissent hein, de plus en plus démographiquement. Et puis, cette vision binaire, c'est aussi d'abord l'Amérique et le reste du monde après. Cette vision binaire, c'est qu'il faut faire payer aux autres pays membres de l'OTAN une facture. C'est tellement simpliste, mais finalement, si il ne voit l'OTAN qu'en termes de coûts et non pas en termes d'objectifs, il est complètement à côté de la plaque. Et je doute effectivement que les stratèges américains, les militaires américains qui auront voix au chapitre, se détourneront aussi facilement de la lutte contre le terrorisme, contrairement à ce que pourrait laisser penser Donald Trump.
Alors, pour revenir également à la politique, au bilan de la politique africaine d'Obama, on retiendra également Fatimata Wansaya, cet échange qu'il a eu avec Macky Sall lors de son voyage à Dakar sur le droit des homosexuels.
Absolument. Et ça a été vraiment retenu sur le continent. Et on lui en a tenu rigueur, d'ailleurs. Beaucoup de journalistes, de spécialistes et même le peuple se sont indignés en disant mais comment il vient ici, il nous donne des leçons et puis il ne trouve rien de mieux à nous dire finalement que de nous parler des droits homosexuels.
Mais la réponse de Macky Sall avait été magistrale.
Absolument, qui n'est pas du tout notre priorité. Et ça, c'est intéressant parce que sachez que sur Trump, par exemple, celui qui est opposé au mariage gay, on va dire, parce que les droits des homosexuels, c'est encore autre chose.
Et à l'avortement.
Et à l'avortement. Ceci dit, on ne sait pas ce qu'il pense réellement. Le candidat Trump, là, il ne faut pas trop s'avancer.
Son vice-président, oui, on sait qu'il est
contre l'homosexualité. Son vice-président, oui, lui, on ne sait pas trop ce qu'il pense là-dessus. Ceci dit, c'est quelqu'un qui, sur ce chemin-là, ne va pas s'aventurer comme Obama. Il ne faudra pas espérer de lui des discours là-dessus. Il ne va pas tenser les démocraties africaines sur leur implication ou pas dans les droits des homosexuels. Il ne va pas s'insurger plus que ça sur les répressions des homosexuels et des droits des homosexuels sur le continent africain. Ça ne va pas du tout être sa tasse de thé. Il ne faut pas rêver là-dessus.
Les droits de l'homme seront secondaires, à mon avis, pour Trump.
Voilà. Ça, vous partagez
Je partage parfaitement cet avis. C'est-à-dire que les droits de l'homme, je pense que Trump, il ne faut pas du tout l'attendre là-dessus. Ce ne sera absolument pas sa priorité. Ceci étant, je pense que comme Barack Obama, s'il a un truc à dire, Trump, il est bien connu pour cela. C'est-à-dire qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il pense. Et s'il y a des choses à condamner, évidemment qu'il le fera. Mais il faut craindre des incidents. Je pense qu'avec le continent, c'est plutôt ça la crainte. C'est-à-dire que avec certains pays, on devra justement s'attendre à des crises, quoi.
Alors, sans surprise, l'Afrique a été absente de la campagne américaine. Le slogan de campagne de Donald Trump, c'était « Make America Great Again », traduit les priorités du futur locataire de la Maison Blanche. Je vous propose ce reportage de Magali Boissin.
Dès les premiers jours de son mandat, le nouveau président américain promet des réformes au pas de charge pour son pays. En matière d'immigration, une promesse répétée sur tous les tons pendant la campagne.
Build that wall. Build that wall.
Rebâtir le mur à la frontière mexicaine, plus haut, plus solide et plus long que celui qui existe aujourd'hui. 1600 km au total construits aux frais du Mexique, selon Donald Trump. Il promet l'expulsion sans délai de 2 millions d'immigrés clandestins. Côté économie, il appliquera une baisse générale des impôts. Pour les plus riches, mais aussi pour les entreprises, avec un impôt pour les sociétés divisé par deux, de 35 à 15%. En même temps, Donald Trump compte mener une politique de grands travaux.
Nous allons reconstruire nos autoroutes, nos ponts, nos tunnels, nos aéroports, nos écoles, nos hôpitaux.
1 000 milliards de dollars d'investissement dans les 10 ans pour relancer l'économie. Son ambition, 4% de croissance par an et la création de 25 millions d'emplois. Un programme qui pourrait faire exploser la dette et le déficit américain.
C'est le retour en force des États-Unis à Hassan Diop et l'Afrique dans tout ça.
Et puis apparemment, pour quelqu'un qui se veut libéral, d'une politique planifiée, puisqu'il faudra injecter de l'argent dans les grands travaux, il faudra aussi surtout imposer des taxes douanières prohibitives pour la Chine. Or, il se trouve que lorsque les États-Unis s'endettent, les bons du Trésor sont achetés par la Chine. Et on verra bien si Pékin acceptera effectivement de voir sa production manufacturière subir des taxes démesurées pour permettre à M. Trump
de n'en faire qu'à sa tête, etc.
Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et encore une fois, tout ça, ce sont des discours d'estrade, ce sont des discours de campagne. Et même concernant le mur, ça reste à voir, que cette espèce de mur de séparation qui plus est, qu'il veut faire payer au Mexique, la plupart des observateurs très sérieux disent que c'est infaisable et que c'est intenable et que c'est impossible, ne serait-ce qu'au vu. Et alors, sa politique de l'immigration, c'est-à-dire de faire repartir, semble-t-il, 2 millions ou 11 millions de personnes qui sont en situation illégale. Je pense que là, il faudrait qu'ils s'attendent à des centaines de milliers de procès qui font que ceux qui doivent être virés ne seront pas virés du jour au lendemain et qu'il faudra peut-être 3 mandats dans Donald Trump pour qu'il arrive à vider ces clandestins des États-Unis.
Fatimata Wansanya, les ressources minières du continent ne sont pas sans intérêt pour les États-Unis tout de même.
Il va avoir un œil là-dessus, ça c'est certain, et les équipes commencent déjà à prospecter. On sait que, évidemment, depuis que le gaz de schiste et le pétrole et les ressources qui ont été découvertes aux États-Unis, évidemment, c'est moins une priorité de ce côté-là pour les États-Unis. Mais alors, il y a tout le reste, évidemment. Pensez que, par exemple, tous les téléphones portables qui sont fabriqués avec des composants qui viennent des minerais, qui viennent du continent pour la plupart. Donc, forcément, il va y avoir un intérêt accru sur le continent. Il n'y aura pas du jour au lendemain, ils ne vont pas changer leur fusil d'épaule là-dessus. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant de voir que cet homme comme Trump, qui rêve finalement d'un New Deal à la Roosevelt, hein. Alors rappelons quand même pour mémoire que le New Deal, ça a été un échec économique, hein. Les gens ont tendance à l'oublier, c'est un échec économique. Ça a explosé la dette, etc., on l'a dit, mais aussi le chômage à la fin. Par contre, ça a été une réussite politique pour Roosevelt, qui a fait qu'il s'est maintenu.
Ça a quand même permis de surmonter la crise de 29.
Oui, certes, mais à la fin des cours, si on fait le bilan, il y a eu une explosion, et ça c'est les faits historiques qui l'attestent, une explosion du chômage, etc., à la fin. Donc ça a été un bilan, une réussite politique, et peut-être que c'est là-dessus, qui sait, que Trump va jouer. Peut-être qu'en se présentant comme étant celui qui aura relancé l'économie américaine en leur faisant construire des ponts, des routes et des hôpitaux, il espère tirer profit de ça et avoir... peut-être que finalement, on va découvrir un Trump politique plus qu'on ne le pensait.
Karine Noriot, un peu de politique fiction. Quel serait, selon vous, le chef d'État africain avec lequel Donald Trump aurait un atome crochu, pourrait avoir un atome crochu?
Je pense que je n'ai pas la réponse.
Ça serait compliqué. Je sais qu'un de ses conseillers avait été le communicant, avait fait du lobbying pour Mobutu.
Oui.
Et c'est le même qui, d'ailleurs, a fait aussi du lobbying pour les dirigeants ukrainiens avant la révolution. Voilà. Donc, je pense, pourquoi pas un dirigeant d'Afrique centrale, à mon avis. C'est peut-être.
Un nom.
Je ne donnerai peut-être pas de nom, mais en tout cas, c'est la clientèle qui sera la plus demandeuse.
À mon avis, ils sont nombreux. Hein. Ouais. Ne croyez pas ça. Je pense qu'ils seront nombreux à pouvoir entendre ce discours-là qui n'est finalement pas impliqué.
Il ne va pas interventionniste.
Il ne va pas leur faire des leçons de morale à tour de bras.
Voilà.
Il va les laisser diriger leur politique, business as usual. Donc, il n'y aura aucun problème.
Ça sera le mot de la fin. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Fatimata Wansanya de France 24 et à Karine Noriot de Canal International, que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois. Hassan Diop, vous étiez en minorité aujourd'hui. C'est une première également. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.